Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en ces temps de surproduction de gaz à effet de serre, de la fonte des glaciers, de la déforestation, de la pollution de nos océans aux hydrocarbures, de nos terres polluées aux nitrates, de la pénurie à venir d'énergie fossile, les hommes commencent enfin à se préoccuper de leur environnement. Nous sommes bien près du mur, mais il n'est jamais trop tard pour agir. En France, des personnages médiatiques tels que Nicolas Hulot ou Yann Arthus-Bertrand, récemment élus à l'Académie des Beaux-Arts, Yann Arthus-Bertrand, arrivent depuis peu à sensibiliser le grand public à cette cause mondiale, l'environnement. L'environnement, un point pourtant essentiel à notre capital vie, ainsi qu'au capital de nos générations futures. En cette période électorale, l'écologie tient désormais également une place dans les programmes. Pour en arriver là, en 2007, en France, des précurseurs avaient déjà posé quelques pierres. Nous étions alors dans les années 70 et ces hommes étaient Édouard Bonnefous et Jean-Marie Pelt. Édouard Bonnefous, l'homme politique, aujourd'hui chancelier honoraire de l'Institut, et Jean-Marie Pelt, le pharmacien écologue, parcourant le monde en quête de plantes médicinales rares et plus généralement souhaitant préserver au mieux la nature. Ces deux grands noms furent réunis fin 2006 à l'occasion de la remise du prix Édouard Bonnefous à Jean-Marie Pelt pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix de l'Institut d'une somme de 10 000 euros récompense chaque année des travaux qui contribuent à la défense de l'homme et de son environnement. Nous vous proposons d'écouter le discours prononcé par Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse le portrait de ces deux grands noms avant de poursuivre par les quelques mots de Jean-Marie Pelt en personne. À cette occasion, il a quitté son Institut européen d'écologie en province, qu'il a fondé en 1972 et qu'il dirige encore. Mais tout de suite, Michel Albert.
Monsieur le chancelier honoraire, monsieur le chancelier, madame le ministre, mes chers confrères, mesdames, messieurs, cher Jean-Marie Pelt, je suis particulièrement heureux de vous remettre ce soir le prix. Ce prix, c'est toujours un plaisir de remettre un prix, car cette rencontre entre le donateur et le lauréat apporte une double satisfaction, celle de rendre hommage à la générosité du fondateur, du donateur, et à la confiance qu'il nous a témoignée, en l'occurrence le chancelier Bonnefous, et puis celle de récompenser les œuvres ou les actions éminentes qui contribuent à l'amélioration de la vie des hommes, et je crois pouvoir dire que c'est bien le cas pour le professeur Jean-Marie Pelt. Il a beaucoup contribué à améliorer la prise de conscience de notre société et à son adaptation aux nouveaux problèmes. Cette joie, ce plaisir est encore redoublé aujourd'hui en raison des affinités électives qu'il y a entre vous deux. En effet, entre les deux personnalités que nous honorons, et parce que, d'abord, l'un et l'autre sont réunis par un même combat pour la défense de l'environnement, qui est plus que jamais un enjeu majeur pour l'avenir de l'humanité. Il me semble qu'une prise de conscience s'amorce au-delà des milieux traditionnellement acquis à cette problématique. J'en prendrai trois exemples. Un, l'écho obtenu tout récemment par le rapport de Nicolas Stern, ancien chef économiste de la Banque mondiale, sur le coût du réchauffement climatique, qu'il évalue comme plus élevé que le coût de la grande dépression économique de 1929. N'est-ce pas ? C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, même si c'est contesté. En tout cas, c'est impressionnant. Deuxième exemple, le succès rencontré par le documentaire d'Al Gore. J'ai trouvé ce film, Une vérité qui dérange, magnifique par sa puissance pédagogique. Et puis, les sondages attribuent 10% d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 à un certain monsieur le chancelier honoraire Nicolas Hulot, qui fut le précédent lauréat du prix Édouard Bonnefous, ici même, il y a un an. Voilà quelques indices de la performance des idées nouvelles dont l'un et l'autre vous êtes porteurs. En effet, le demi-siècle qui vient de s'écouler correspond à la période au cours de laquelle vous avez sans cesse dénoncé les dangers que faisait courir à la nature et à l'homme un développement non maîtrisé. Vous appartenez, monsieur le chancelier honoraire, à la race des précurseurs en la matière et, oserais-je dire, des prophètes. En effet, voilà une date, je crois, qui mérite d'être retenue. C'est en 1963, il y a 43 ans, que, poussé par votre confrère et ami Jean Rostand de l'Académie française, vous avez publié « La Terre et la fin des hommes ». La Terre et la fin des hommes, 63. Depuis, vous avez régulièrement écrit sur ce sujet. Votre dernier ouvrage, L'environnement en péril, date de 2001. Mais le livre qui a peut-être eu le plus d'impact fut sans doute en 1970, au début des années 70, L'homme ou la nature, qui fut à l'origine de la création du ministère de l'Environnement. Car je crois que cela résume d'un mot, l'influence d'une idée percutante et vraie qui a été découverte et développée ainsi depuis par M. Bonnefous depuis le début des années 60. Vous avez également, monsieur le chancelier honoraire, agi pour la préservation de la nature dans le cadre de la région Île-de-France, dont vous étiez un élu, notamment par la création de l'Agence des espaces verts. C'est à votre initiative et à votre détermination que l'on doit l'aménagement du plateau de Saclay qui, aujourd'hui, je crois bien, est à nouveau menacé. À cette énumération trop brève de vos mérites, ceux qui le connaissent bien voient la logique qu'il y avait à ce que votre prix soit attribué à Jean-Marie Pelt. En effet, cher Jean-Marie Pelt, avant d'en venir au titre qui vous valent d'être récompensé aujourd'hui, permettez-moi de rappeler les circonstances de notre première rencontre. Nous nous sommes rencontrés dans la maison de Robert Schumann, auprès de qui vous avez été d'un dévouement sans compter dans les dernières années de sa vie. Or, Robert Schumann était un ami du chancelier honoraire Édouard Bonnefous, lequel est bien connu pour son engagement européen toujours exemplaire. Voilà donc une convergence tout à fait remarquable qui donne à la réception d'aujourd'hui, qui donne à cette attribution du prix Édouard Bonnefous qui vous est faite, une valeur vraiment tout à fait symbolique. Mais ce n'est pas à ce titre, au titre d'ami de Robert Schumann que vous êtes ici ce soir, vous l'êtes comme l'un des botanistes écologistes les plus renommés. Votre vocation est née alors que vous étiez en deuxième année d'études de pharmacie à Nancy, si je ne m'abuse. Au programme était inscrite une matière au nom quelque peu hermétique, en tout cas pour moi, c'est la matière médicale. La matière médicale, expression qui a depuis fait place à une expression plus ésotérique encore, c'est la pharmacognosie. La pharmacognosie serait, me semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu dire, une discipline qui tient son nom de l'œuvre majeure de Dioscoride, médecin grec des armées de Néron, qui voyagea dans tout l'Empire et rapporta une liste de plantes, de minéraux et d'animaux dont on peut extraire des principes actifs. Eh bien, vous êtes vous-même, nous le verrons tout à l'heure, une sorte de Dioscoride, car vous avez parcouru le monde en quête de plantes, notamment, et de plantes médicinales rares. Ce goût pour l'étude des plantes, vous l'avez eu tout petit enfant, me semble-t-il. Vous avez même indiqué quelque part que sur ce point, vous aviez fait vos classes avant l'âge de 5 ans, dans le jardin de votre grand-père, qui était lui-même le jardinier de la riche famille de Vindel, donc de la Lorraine dont vous êtes issu. Pharmacien agrégé, vous vous consacrez à l'enseignement, d'abord à la faculté de Nancy, où vous enseignez la biologie végétale et la cryptogamie, vous nous expliquerez peut-être ce qu'est la cryptogamie tout à l'heure, avant de fonder, En 1972, vous voyez les dates, 1963, le premier livre du chancelier honoraire. 1972, à Metz, Jean-Marie Pelt fonde l'Institut européen d'écologie. Qui parlait alors d'écologie, il y a plus de 30 ans. Et vous enseignez dans cette même faculté de Metz la botanique et la physiologie végétale. Pendant cette partie de votre carrière, vous avez fait de nombreuses missions auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Dahomey, en Afghanistan, qui vous ont amené partout à étudier les pharmacopées traditionnelles de ces pays. À l'époque, cela ne se faisait guère. Aujourd'hui, c'est plus à la mode. Mais votre magistère ne s'est pas limité aux amphithéâtres lorrains. Votre message en faveur de la connaissance et du respect de la nature, vous l'avez également porté au plus grand nombre, dans plus de 30 livres, de 30 ouvrages, toujours écrits en un style clair et nourri d'anecdotes. Vous êtes un conteur merveilleux, ce qui fait que vous avez beaucoup travaillé pour la télévision, où l'on vous doit les séries suivantes, L'aventure des plantes 1 en 1982 sur TF1, L'aventure des plantes 2 sur TF1 également, le 7 d'or du meilleur documentaire en 1987 à ce titre, Des plantes et des hommes sur Arte en 1993-94, Passion Terre sur France 3, Et ce titre qui m'a beaucoup intrigué, mais que je trouve hyper moderne, Le goût du bonheur, fruits et légumes. Ça fait combien aujourd'hui on nous explique qu'il faut manger des fruits et des légumes, n'est-ce pas, pour bien vivre. Le goût du bonheur, fruits et légumes. Vous ravissez également les auditeurs de France Inter, où depuis 1982, vous avez eu sans presque discontinuer une chronique sur les plantes et l'écologie. Vos textes, souvent poétiques, sont toujours ceux d'un amoureux de la nature qui tente de communiquer son admiration pour les grands botanistes qui l'ont précédé et ses émerveillements devant les liens complexes qui se nouent entre les êtres vivants. Ainsi, vous rappelez que la solidarité, ça c'est une idée qui vous ressemble bien, que la solidarité est tout autant que la force une des lois fondatrices du monde naturel. Jean Rostand disait « Il faut savoir pour rêver ». Avec vous, on pourrait dire « Il faut savoir pour aimer ». Que ce soit dans les médias ou dans le cadre du réseau que forme autour de lui l'Institut européen d'écologie, créé donc en 1972, dans votre habit de vulgarisateur ou dans celui d'expert, vous ne vous départissez pas d'un profond optimisme anthropologique, humaniste, et j'ajouterai imprégné de foi chrétienne. Certes, l'homme a déséquilibré l'ordre naturel et se met en danger par esprit de démesure, mais rien n'est perdu pour peu que l'homme accepte de faire de ce monde son jardin. Mot tellement important pour vous. Vous écrivez aussi « Je ne suis pas un écologiste dit qu'une souris a autant de responsabilités que moi. Je suis un écologiste qui dit que j'ai plus de conscience que la souris et que je suis donc responsable aussi de la souris. Je me sens responsable de ma communauté, je vous cite toujours, la communauté humaine pour la petite part que j'y occupe et aussi de l'ensemble de la création. » Tout cela est relié par le dedans, l'intérieur, l'intériorité, cette intériorité dans laquelle l'homme que vous êtes peut se reconnaître jardinier à l'image de son créateur lorsqu'il apparut à Marie-Madeleine. Jean-Marie Pelt, je suis heureux de vous remettre le prix Édouard Bonnefous 2006.
Monsieur le chancelier honoraire, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Michel Albert, Je suis vraiment très très touché par l'attention que vous avez eue à mon égard et je voudrais d'abord vous exprimer vraiment toute ma gratitude. Toute ma gratitude en particulier à vous, monsieur le chancelier honoraire, parce que figurez-vous que lorsque nous avons créé l'Institut européen d'écologie, en effet, il y a 34 ans, j'avais un livre de chevet qui était le vôtre, « L'homme ou la nature ». Je vois encore sa couverture verte. Et ça a été pour moi vraiment la première lecture de l'écologie quand nous avons orienté d'abord, évidemment, nos activités sur la protection de la nature. Et puis ensuite, vous avez beaucoup écrit, vous avez toujours été un auteur de référence en matière d'écologie, et vous avez illustré l'idée que je me suis toujours fait de la place de l'écologie en politique. Je pense que ça n'est pas une place qui doit être réservée à quelques écologistes, mais qui doit être au contraire une préoccupation de tous. Et vous avez illustré par toute votre carrière, monsieur le chancelier honoraire, la place considérable que vous avez réservée à la nature et à tous ces problèmes qui aujourd'hui sont d'actualité, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Et donc vous avez été un précurseur, et j'ai toujours beaucoup d'admiration, je dois dire, pour les précurseurs. Vous avez publié d'ailleurs un deuxième ouvrage que j'ai lu aussi, qui s'appelait « Réconcilier l'homme et la nature », je crois que c'était en 90, si je me souviens très très bien, donc on vous a suivi tout au long de ce périple. Et si vous avez dit et écrit tout cela, c'est probablement parce que vous avez senti, comme je le sens moi-même, que notre monde est très éloigné de la nature. Très éloigné de la nature. Nous sommes dans un monde qui s'organise entièrement autour de la technologie et même des technologies. Nous imaginons que nous ne survivrions pas à la disparition des portables, des jeux vidéo, de la télévision. Pourtant, nous avons vécu sans. Mais ce dont nous sommes tout à fait sûrs, bien que personne n'y pense jamais, c'est que si la nature n'était pas là pour nous porter, et je dirais même aujourd'hui pour nous supporter, ben nous ne serions pas là non plus. Parce qu'on a calculé que les réserves alimentaires sont de l'ordre de 5 ou 6 mois, et donc nous ne passerions pas, nous, l'humanité, l'année 2007, si la nature n'était plus là autour de nous, qui nous offre non seulement ses aliments, mais les médicaments, les cosmétiques, l'énergie, etc. Alors j'ai œuvré dans deux directions. Dans la première longue étape de l'histoire de l'Institut d'écologie que nous avons installé dans un cloître franciscain, sous le patronage de François d'Assise, qui a été un écologiste avant le mot et avant la lettre, nous nous sommes beaucoup préoccupés de remettre la nature à sa place. Et, cher Michel Albert, vous avez évoqué la série « L'aventure des plantes », où l'objectif était de montrer qu'une plante, ça n'est pas une chose inerte, qu'il y a dans la plante une vie qu'on saisit d'autant mieux que les artifices des caméras et du cinéma permettent de travailler au ralenti ou en accéléré, et l'on voyait donc les insectes se précipiter sur les fleurs, et on voyait cette vie intense de la plante, dont on pouvait donc imaginer qu'elle avait des mœurs et des comportements qui ressemblent aux nôtres. Et ces films ont passé pratiquement dans le monde entier, sauf aux États-Unis, parce que les États-Unis voulaient non pas acheter les films, mais m'acheter moi. Comme je suis comme un Grec, très attaché à ma terre, les Grecs considéraient que le bannissement était la suprême injure qu'on puisse leur faire, je suis resté attaché à ma Lorraine, et je n'ai donc pas été habité à Miami. Mais c'était important pour nous, et pour mon regretté ami Jean-Pierre Cuny, que de donner la parole aux plantes. Jean-Pierre avait eu une fausse bonne idée. Ah, il avait dit, Jean-Marie, je vais te mettre un bonnet vert, et comme ça tu seras le pendant du commandant Cousteau avec son bonnet rouge. Ah mais non, mais je ne voulais absolument pas être le pendant du commandant Cousteau, que je respectais infiniment, et je n'ai pas mis de bonnet vert. Et il m'a semblé que ce qui était important, c'était que les plantes parlent par elles-mêmes. Donc il n'était pas nécessaire d'être dans le film, comme on dit. Il était nécessaire que ce soit les plantes qui soient dans le film, et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé. Un peu plus tard, dans l'histoire de notre institut, il m'est apparu de plus en plus évident, et c'est la ligne actuelle, que l'âge venant, il fallait songer aux enfants. Songer à l'avenir de nos enfants, c'est un avenir qui est problématique. Je quitte à l'instant un spécialiste des questions climat, il m'a dit ce que je sais déjà, c'est que le prochain rapport du groupement international des experts sur le climat sera plus pessimiste que le précédent, que le réchauffement climatique inquiète de plus en plus. Nous sommes le 4 décembre, il fait 16 degrés, c'est extraordinaire. Jamais arrivé. Alors à la télévision, on vous dira, ça n'est jamais arrivé depuis 1945. Mais ça ne veut rien dire, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à enregistrer la météo. Avant, on n'avait pas de chiffres sûrs. En fait, c'est jamais arrivé de mémoire d'homme, et avant, semble-t-il, non plus. Donc des périls importants pèsent sur l'avenir, la vie de nos enfants. Nous aurons réussi ce tour de force inouï de mettre tout le pétrole et le gaz que la Terre a formé pendant des millions et des millions d'années en l'air sous forme de gaz carbonique en 2 siècles. Donc forcément, nous avons tout changé. Parce que tout ça va très 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 vite, comme vont vite les progrès techniques dans notre société, une vitesse inouïe. Petit enfant, j'étais dans une ferme de l'Auvergne profonde, qui ressemblait en tout point exactement à une ferme de l'an 1000. Le mot technologie, il n'y avait aucun sens, puisqu'il n'y en avait pas. Et pas de voiture, pas de téléphone, pas d'électricité, tout ça n'existait pas. Nous avons évolué à une vitesse inouïe, nous allons encore plus vite, la Chine va encore plus vite que nous, et devant nous, ben, nous voyons arriver ces catastrophes potentielles, et ce que nous redoutons beaucoup, et ce que notre ami commun Nicolas Hulot regrette et redoute beaucoup aussi, c'est un scénario catastrophe, et c'est ce scénario catastrophe qu'il faut absolument que nous arrivions à éviter. Et pour cela, l'une des actions prioritaires est sans doute l'éducation très tôt des enfants. Vous avez dit, monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez évoqué, conçu et réalisé dans un jardin, et que très tôt je jardinais à côté de mon grand-père, qui m'a tout donné. Il m'a donné l'amour de la nature, il m'a donné l'amour des plantes, il m'a donné l'amour de Dieu, il m'a tout apporté. Et de lui, j'ai donc tout reçu, ainsi que de mes parents. Mais si on ne reçoit pas les choses tôt, on ne reçoit plus rien. C'est pourquoi, à l'Institut d'écologie, nous avons donné une priorité absolue à l'éducation des petits-enfants en école maternelle. Et on fait 2 choses à Metz. D'une part, chaque maternelle, il y en a 41, est dotée d'un petit jardinet pour que ce qu'on appelle le jardin d'enfants soit un jardin pour les enfants. Et donc les petits-enfants jardinent, ce sont des urbains, avec des responsables du service des espaces verts qui leur apprennent à planter, à arroser, à cultiver les fleurs, etc. Et en plus, l'Institut leur offre un petit spectacle de marionnettes que nous avons écrit avec un de mes collaborateurs, Franck Stéphan. Et ce spectacle leur est présenté par une jeune collaboratrice qui va dans les écoles et qui leur donne le goût et l'amour de la nature. Et quand elle a été 3 fois dans les écoles pour présenter le spectacle, qui est une histoire à suite avec des rebondissements palpitants, les petits-enfants veulent absolument que ça continue. Mais ça ne peut pas continuer. Alors nous leur expliquons qu'on va aller ailleurs, leur apporter aux autres ce qu'ils ont reçu eux. Et alors ils sont tout à fait contents. Parce qu'ils disent qu'ils vont participer à ce qui va se passer ailleurs. Et c'est ainsi une chaîne de l'amitié qui se fait entre tous nos petits-enfants. C'est l'apprentissage de la solidarité. Vous avez tout à l'heure évoqué ce mot solidarité. J'aime beaucoup ce mot. parce que quelle plus belle solidarité que d'être solidaire avec nos enfants, avec la génération qui vient. C'est pas toujours le cas dans la vie publique, monsieur le chancelier honoraire, vous le savez bien, on pense aux échéances immédiates. On veut satisfaire les gens d'aujourd'hui dans leurs préoccupations immédiates. Et on pense peu à ce qui se passera quand nos enfants auront 50 ans. Eh bien voilà, il est très important désormais de penser à ce qui se passe pour nos enfants quand ils auront 50 ans. Et si solidarité entre les générations il y a, il faut aussi la solidarité entre nous et nos amis, les plantes et les animaux. Et nos frères des pays du Sud qui sont pauvres, mais avec les pauvres qui sont nombreux, parce que nous n'arrivons pas à créer des systèmes qui permettraient de réduire la fourchette si large des revenus pour promouvoir un peu plus d'équité. C'est tout cela qui nous préoccupe et nous voudrions y travailler. Et puis, alors, nous disons aussi à nos enfants qu'il faut qu'ils fassent des efforts. Nous plaidons pour l'émulation. C'est très important, l'émulation. C'est pas de tuer l'autre. Avec l'autre, il faut échanger dans la fraternité républicaine ou morale ou chrétienne. Mais il faut aussi faire bien. Oh, je sais bien, chers amis, que ces valeurs ne sont pas les valeurs de la société dans laquelle nous vivons. La beauté, la bonté, la douceur, la générosité, la miséricorde, le pardon, tout ça, évidemment, a complètement disparu du paysage médiatique, hélas ! Mais nous l'apportons très tôt à nos enfants, et nous pensons ainsi bien faire, parce que s'il y avait à la télévision moins d'agressivité, il y en aurait moins dans la rue, et que probablement est-il nécessaire de mettre dans notre monde, et pour le futur, cet ingrédient dont nous parlons depuis 2000 ans et qui s'appelle l'amour. Et comme me disait notre très regretté ami Théodore Monod, il me disait, Jean-Marie, ce qui est embêtant, c'est qu'on en parle toujours et qu'on ne l'essaye jamais. Sans doute est-il temps de l'essayer pour de bon et de l'essayer avec nos enfants et pour nos enfants. Et je dédie ce prix à nos enfants de la ville de Metz dont nous nous occupons toujours. Merci, chers amis.
Vous venez d'écouter la retransmission de la remise du prix Édouard Bonnefous, remis en décembre 2006 à l'Institut de France, décerné à l'écologue Jean-Marie Pelt, un prix qui existe depuis 1997 et qui récompense chaque année des travaux contribuant à la défense de l'homme et de son environnement. Pour en savoir plus sur l'Institut européen d'écologie de Jean-Marie Pelt, nous vous invitons à vous rendre sur son site internet au www.ethnopharmacologia.org. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie et à très vite.